Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
En 2012, vous vous en souvenez peut-être, l'étude du biologiste Gilles-Éric Séralini faisait les gros titres. Une expérimentation sur des rats nourris à base de maïs transgénique montrait qu'au bout de 2 ans, ils développaient des tumeurs volumineuses et que leur espérance de vie était réduite. À l'époque, l'étude fut controversée. 6 ans après, une nouvelle recherche publiée la semaine dernière contredit les conclusions de Gilles-Éric Séralini. Que sait-on aujourd'hui sur la toxicité du maïs OGM? Bonjour Olivier Le Gall, vous êtes biologiste, chercheur à l'INRA et président du Conseil français de l'intégrité scientifique. Alors, il faut tout d'abord rappeler en quoi consistait cette étude de 2012.
Donc, en 2012, premièrement, l'équipe de Gilles-Éric Séralini ne parlait pas de cancer, mais de tumeur. Et c'était important parce que, du coup, il travaillait comme des toxicologues et pas comme des cancérologues. Et en gros, il posait 2 questions, les effets à long terme sur la santé de la consommation de maïs OGM résistant au Roundup. Et de la consommation de Roundup. Et donc, en obtenant une même réponse, donc ce qui a paru bizarre pour les chercheurs qui regardaient cette étude-là, et qui laissaient penser qu'il pouvait y avoir un même facteur extérieur. Et puis par ailleurs, l'étude a assez vite été critiquée pour des questions de déontologie, d'éthique et d'intégrité.
C'est-à-dire ?
Et elle a été rétractée. Ben, c'est-à-dire que pour aller rapidement, par exemple, les photos de rats avec ces tumeurs sont contraires aux pratiques de laboratoire qui font que des rats n'arrivent pas avec cette lignée de rats particulière fait des tumeurs de manière spontanée et on les laisse pas aussi vifs que ça, on les euthanasie humainement, on va dire, avant que ce soit un stade aussi avancé.
Mais alors, au fond, parce que ce que le grand public se posait, ce qu'il se pose toujours comme question, cette étude ne montre-t-elle pas qu'il y a une toxicité du maïs OGM?
Ben, donc voilà, donc là je parlais des questions d'éthique, mais après ça il y avait des questions sur l'absence de certains contrôles qui auraient été nécessaires pour pouvoir travailler. Par exemple, comparer non pas des croquettes avec 33% de maïs OGM, mais les comparer avec 33% de maïs non OGM et OGM. Comparer ces 2 choses-là était plus comparable. Donc un certain nombre de contrôles qui manquaient, le fait que les effectifs n'étaient pas suffisants selon les personnes qui regardent les statistiques. Donc voilà, pour un certain nombre de raisons, on va dire, l'article finalement a été rétracté, c'est-à-dire qu'il est toujours disponible, mais il est indiqué qu'il n'est pas valable.
Et alors 6 ans après, donc cette nouvelle étude, que montre-t-elle Olivier Le Gall, vous qui êtes biologiste et chercheur à l'INRA?
Donc 6 ans après, en fait, cette étude a été financée par des fonds publics uniquement, essentiellement du ministère de l'Environnement et puis pour bien entendu les salaires des chercheurs qui sont des salaires publics. En gros, ils refont à peu près les mêmes expériences, mais pas avec les mêmes défauts, donc en utilisant une autre lignée de rats en mesurant un nombre de paramètres, là encore, très important, et en essayant de voir si les paramètres qu'on mesure à 90 jours, qui sont les tests normaux, peuvent s'étendre peuvent être extrapolés ou pas. C'était une des questions sur ces études. Et donc, voilà, ils s'aperçoivent que non.
Ils s'aperçoivent que non, c'est-à-dire que...
Ils s'aperçoivent que non. Enfin, si les tests peuvent être extrapolés, mais par contre, alors qu'ils mesurent des choses extrêmement sensibles, comme par exemple l'origine du maïs. C'est-à-dire qu'ils voient une différence dans la physiologie des rats ensuite, selon qu'ils ont consommé un maïs qui vient d'un endroit ou d'un autre. Donc c'est une sorte d'effet de terroir, donc c'est quand même extrêmement sensible.
Comment ça se fait ?
Parce que c'est pas exactement la même composition à l'intérieur, voilà. Et donc ça, ils sont capables de le mesurer. Par contre, la différence entre un maïs et le même OGM... Le même maïs, mais en version OGM, ça, ils ne le détectent pas.
Mais alors, vous êtes en train de me dire que les rats ne sont pas dans la même condition physique suivant qu'ils consomment un maïs venu de l'Est ou venu de l'Ouest?
Si vous consommez un vin de Bordeaux ou un vin de Bourgogne, vous trouvez des plaisirs différents. Donc
des plaisirs différents, certes, voilà. Mais est-ce que ça va vous modifier pour autant?
Non, mais les rats sont pas modifiés. C'est juste que leur physiologie est un petit peu différente, voilà.
Un petit peu différente. Bon, et sur la toxicité, parce que c'est toujours la même question, c'est-à-dire les scientifiques ont une approche complexe de ces questions, mais en revanche, le grand public, lui, a une interrogation simple. Est-ce que les OGM sont ou non dangereux pour la santé? Est-ce qu'aujourd'hui, 6 ans après la première enquête de Gilles-Éric Séralini, on a une meilleure connaissance de la toxicité ou de l'absence de toxicité des OGM? Qu'en pensez-vous, vous qui êtes chercheur à l'INRA?
Et donc, une des conclusions quand même, c'est qu'on ne peut pas généraliser. C'est une seule étude dans les 2 cas. Donc il y en a une qui prétendait d'ailleurs généraliser un petit peu plus que ce qu'elle pouvait. Et tandis que les derniers travaux, là, on ne peut pas généraliser. C'est juste que des rats qui ont consommé ce maïs et ce maïs ne sont pas différents de s'ils avaient consommé un autre maïs.
D'accord, voilà. Alors on ne peut pas généraliser, mais malgré tout, si on imagine un lien entre, alors vous dites non pas le cancer, mais des tumeurs, mais là aussi, la différence est probablement très importante pour vous, mais quand on voyait les rats photographiés par Gilles-Éric Serralini, on n'avait pas du tout envie de leur ressembler. Donc on se dit que si vous, scientifique, vous faites ce type de recherche, c'est que vous avez probablement une arrière-pensée sur le lien entre les tumeurs et les OGM. Qu'est-ce qui, dans la consommation d'OGM, d'OGM associés au Roundup, peut causer ou pas des tumeurs ?
Donc c'est important de voir que justement ces nouveaux travaux ne permettent pas de faire de lien entre la consommation d'OGM l'apparition de tumeurs, en tout cas de ces deux OGM-là qu'ils ont testés dans cette étude. Serralini n'a regardé qu'une seule. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ce qui est important au-delà de ça, c'est vraiment dans quelles conditions la science contribue à la connaissance et contribue à ce qui permet ensuite une prise de décision politique, une prise de décision citoyenne en démocratie. Et c'est pas par un article scientifique particulier. On voit le processus très compliqué sur les questions de climat, par exemple, qui s'est mis en place avec le GIEC, où il y a en permanence un groupe d'experts qui en permanence fait le bilan sur qu'est-ce qui, sur les questions de climat, fait consensus, qu'est-ce qui, et sur lesquelles il peut y avoir des décisions politiques qui peuvent être prises, éventuellement des décisions compliquées, et qu'est-ce qui ne fait pas consensus, quelles sont les études qui restent à mener à droite ou à gauche sur des points particuliers. Mais au moins, la partie qui fait consensus peut faire débat. Et c'est pas un article scientifique. Il n'y a pas eu un article scientifique sur le climat. Il n'y a pas eu particulier. Enfin, il y en a eu plein.
Il y en a eu beaucoup.
Mais c'est pas un article scientifique particulier qui donne la vérité. Et sur les OGM, dans une proportion moindre que le climat, parce que le climat, c'est global.
Bien sûr.
C'est un petit peu la même chose.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, aujourd'hui, pour essayer d'y voir un peu plus clair? Parce que, donc, on n'a toujours pas, en fait, de réponse précise à cette question, qui est une question qui intéresse beaucoup l'opinion publique.
Ben, il faudrait sans doute rassembler, mais c'est le travail que fait un petit peu le Haut Conseil des biotechnologies, de rassembler sur des... Alors le Haut Conseil travaille soit sur des questions globales, soit sur des questions particulières, mais rassembler les expertises sur ce sujet. Et le Haut Conseil est constitué de deux comités, un comité éthique, économique et social et un comité scientifique. Le montage était intéressant, ça paraît un peu difficile à faire vivre, mais c'est ce type de construction qu'il faut mettre en avant sans doute.
Merci beaucoup Olivier Le Gall. Je rappelle que vous êtes biologiste, chercheur à l'INRA et président du Conseil français de l'intégrité scientifique. 7h21 sur France Culture.